Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène dans un lieu unique en Afrique, un hôpital psy qui allie art et thérapie. C'est très rare sur ce continent, cette manière d'appréhender la maladie mentale, et ce sera l'escale reportage ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Russie, aux États-Unis, avec un rappeur aussi très très riche. La chronique pour tous de Julia Foyce avec des footballeuses allemandes et leurs clips que vous découvrirez. Et la Ballon d'Or aussi qui boycotte la Coupe du Monde. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, où l'on voit au Soudan ou en Algérie que les élections sont aussi l'arme des militaires. Avant cela, c'est en Allemagne que nous allons. Le monde est vaste. On n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
La coalition, donc la grosse coalition en Allemagne, c'est deux pieds et aucun de ces pieds ne va très bien aujourd'hui. Ni le SPD qui n'a donc plus de tête depuis avant-hier maintenant, ni la CDU qui a fait un score extrêmement décevant aux européennes et avec à sa tête une Annegret Kramp, Karen Bauer qu'on va appeler AKK pendant toute la durée de cette interview si vous me le permettez et qui elle aussi est dans la tourmente. Bonsoir Hans Stark.
Bonsoir.
Secrétaire général du comité d'études franco-allemand à l'IFRI. Il a fallu 6 mois pour la mettre en place cette coalition. On se souvient que ça avait été plus long qu'à habituel, en tout cas très long. Et au fond, ça n'a jamais fonctionné. On a été de crise en crise pour aller jusqu'à une situation qui finalement vous étonne ou pas ?
Non, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne parce que malgré tout, cette coalition travaille. Hein. Ils ont pas mal de dossiers qui sont bien engagés hein, sur les questions de la retraite, sur la politique migratoire, même sur la sortie du charbon, donc début de politique climatique. Mais c'est une coalition d'abord subie par les sociodémocrates qui sont rentrés là-dedans par devoir et qui sont extrêmement malheureux parce que d'élection en élection, ils perdent 20 à 25% de leur électorat. Donc ils prennent vraiment des
et là la claque a été
énorme,
monstrueuse.
Ils étaient à 15% aux élections européennes et le dernier sondage les donne à 12-13, donc c'est vertigineux cette chute.
Pire score depuis jamais en fait, non?
Ah oui, pour un parti je veux dire qui voulait être un parti de rassemblement et qui a 150 ans d'histoire et dont l'ambition est quand même c'est un parti de gouvernement. Et donc ça c'est une chose. Une deuxième, c'est que comme partout en Europe, et en particulier en France, les partis traditionnels disparaissent au fur et à mesure. Et en Allemagne, c'est assez violent maintenant, notamment pour les sociodémocrates, puisque c'est l'électorat, en fait, sociodémocrate, le milieu social d'où vient l'électorat qui, lui, est en train de disparaître, le monde ouvrier, aujourd'hui divisé en deux en Allemagne, l'ouvrier très qualifié, qui vit bien et qui se tourne vers les chrétiens-démocrates, parce qu'il est très conservateur, libéral parfois même. Et puis l'ouvrier non qualifié qui vit la vie professionnelle comme une forme de précariat et qui se tourne donc soit vers l'extrême droite, voire l'extrême gauche. Et entre les deux, il n'y a pas beaucoup de place pour le SPD.
Vous disiez, ça ressemble effectivement à ce qui peut se passer chez nous à certains égards. Ce qui nous parle aussi, c'est au fond que le clivage droite-gauche a été brouillé entre la SPD et la CDU. À force de faire cette alliance qui peut apparaître baroque au fond, puisque comme vous dites, elle a été subie, ce clivage-là, on ne le voit plus. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle les gens, au fond, se rabattent soit sur les Verts, soit sur l'AFD, l'extrême droite?
Oui, de ce point de vue-là, la Grande Coalition, finalement, n'était pas une aberration, parce que Mme Merkel a bien compris, lorsqu'elle a formé la première Grande Coalition en 2005, que finalement, ce clivage droite-gauche n'a plus vraiment raison d'être aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement, c'est que les jeunes, aujourd'hui, en Allemagne, votent très différemment. La CDU fait moins de 15% parmi les moins de 30 ans et le SPD, c'est autour de 10%. Alors que chez les Verts, ils en font entre 30 et 35%. Ce qui veut dire que les moins de 30 ans, aujourd'hui, se tournent massivement vers les Verts qui leur, finalement, présentent une offre politique qui est axée non pas sur les questions idéologiques, mais sur le thème qui est devenu le thème central aujourd'hui, c'est la question climatique.
Et quelque chose que la SPD a raté, c'est un virage qu'ils ont complètement raté. Il y a rien de vert dans ce que disait la SPD ou pas, ou c'était devenu inaudible au fond.
C'est surtout pas crédible parce que le SPD c'est le parti de la roue, le parti presque de l'industrie du charbon.
C'est le parti du charbon, j'allais dire.
Voilà, et donc c'est pas très crédible de dire aujourd'hui, allez, il faut sortir du charbon, mais très très vite et faire le nécessaire pour sauver la planète.
Mais du coup, tout ça date évidemment d'avant l'accession à la tête du SPD d'André Marianne Alleuse. Donc elle quitte, elle s'en va, elle quitte même la politique, on sent une espèce de dégoût terrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour remplacer cette femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre la tête de la SPD?
Oui, alors déjà pour le moment, nous avons une présidence intérimaire qui est composée de 3 personnes, donc 2 ministres-présidentes, donc 2 femmes, et un monsieur qui s'appelle Schäfer Gümbel qui a essayé à 2 reprises de conquérir le Land de la Hesse, qui n'a pas réussi, donc c'est pas non plus vraiment une histoire à succès pour ce qui concerne ce dernier.
En gros, qui veut la patate chaude? C'était ça ma question.
En fait, il dirige pour l'instant à 3 ce parti, en attendant au mois de juin une élection en bonne et due forme d'un nouveau président, d'une nouvelle présidente du SPD. Et puis le groupe parlementaire, ça c'est une fonction très importante, est également dirigé aujourd'hui par finalement par même un ancien du SPD, M. Mützeny, qui est un pacifiste au fond de l'âme, ce qui ne va pas non plus faciliter le dialogue avec la France, en particulier sur les questions de défense et de sécurité européenne.
Mais au fond, la sortie pour le SPD, c'est quoi? Tant qu'ils restent dans la coalition, c'est finalement leur mort, parce que vous l'avez dit, ils l'ont complètement subi et c'est une raison pour laquelle les électeurs sont partis. Provoquer de nouvelles élections, c'est la même chose, parce que le risque d'un score très bas, il existe.
Oui.
Donc au fond, ils sont coincés, ils sont
dans un coin,
comme à la boxe en fait.
Ils vont quand même, je veux dire, la grande coalition, qu'elle dure encore 6 mois ou 1 an, on n'en sait rien, ou 2, peut-être moins d'ailleurs, parce que nous avons 3 élections, sans doute pas, parce que nous avons 3 élections régionales très difficiles en Allemagne de l'Est, 2 le 1er septembre 2019 et une 3e le 27 octobre en Thuringe. Et dans ces 3 élections-là, c'est l'extrême droite qui va faire un très bon score, parce que c'est en Allemagne de l'Est où l'AFD est très puissante, et sans doute le SPD va connaître encore une défaite très très lourde, et ça peut être en effet là la goutte qui va faire déborder le vase, et dans ce cas-là on aura des élections anticipées avec un très mauvais score pour le SPD et des Verts qui vont monter encore en puissance, et aujourd'hui donner à égalité avec la CDU.
Ça veut dire
que dans une coalition éventuelle entre chrétiens démocrates et Verts, il n'est pas sûr du tout aujourd'hui que ce soit une chrétien démocrate, appelant Mme Kramp-Karrenbauer, qui va occuper le poste de chancelière.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un sondage, c'est vous. L'idée d'un chancelier vert, elle fait son chemin, réellement? Elle est séduisante, selon vous, pour les Allemands ou pas?
Visiblement, puisque d'après le dernier sondage, les Verts ont 27% et la CDU 26%. Donc c'est quand même très serré, il ne faut pas rêver non plus.
Ouais.
On verra au fur et à mesure. Mais il y a quand même une tendance lourde. Et cette tendance montre que les Verts montent très fortement en puissance. Ils dirigent quand même le pays qui est économiquement le plus dynamique depuis beaucoup d'années maintenant. C'est le Baden-Württemberg et ça se passe très bien. Ils dominent dans toutes les villes en Allemagne. Que ce soit Francfort, Stuttgart, Berlin. C'est-à-dire, ils ont vraiment le vent en poupe et visiblement, ils séduisent un électorat centriste qui ne veut ni de l'extrême droite d'AFD, ni d'une CDU trop identitaire à la Wauquiez, entre guillemets, ni d'un SPD qui aujourd'hui ne représente plus grand-chose.
C'est la question que j'allais vous poser. La dirigeante de la CDU, AKK, donc, n'a pas pris sa place. Effectivement, comme vous le disiez, peut-être à l'image de Laurent Wauquiez, avec une direction qui était notamment sur tout ce qui est sociétal extrêmement conservateur en fait. Ça a fait fuir beaucoup de gens ce positionnement-là. Et est-ce qu'il est très étonnant d'ailleurs de la part de la CDU ce positionnement sociétal très à droite?
Alors on était en effet surpris car Kramp-Karrenbauer, lorsqu'elle a été élue en décembre dernier à la présidence de la CDU, tout le monde disait que finalement c'est une nouvelle Merkel. Donc elle a le même profil politique pro-européenne, centriste, libérale. Or elle a été entre guillemets mal élue avec 52%, et depuis elle cherche à conquérir les autres 48 qui avaient préféré son opposant en face, qui était beaucoup plus conservateur qu'elle. Alors, en s'ouvrant au milieu le plus conservateur de la CDU, elle délaisse sur sa gauche les centristes de la CDU qui se sont tournés vers les Verts. C'est exactement la tactique qu'avait déployée Mme Merkel pour les gagner, entre guillemets, et pour diriger le pays depuis maintenant quand même 2005.
Angela Merkel qui elle fait pour l'instant mine de rien, en disant que les choses vont finir par avancer, elle entend mener la coalition à son terme en 2021, vous l'avez évoqué il y a un instant, Hans Stark.
C'est qu'il son objectif.
Quelle est la probabilité pour qu'on puisse avoir la même coalition jusqu'en 2021?
Alors j'en vois, ça dépend du SPD et pas de Mme Merkel. Vu la faiblesse du SPD, vu les déchirements à l'intérieur de ce parti, je ne vois pas à titre personnel ce parti gouverner encore jusqu'en septembre 2021. C'est très très long pour un parti qui va aussi mal. Cependant, Mme Merkel aimerait bien rester au pouvoir, évidemment encore pendant 2 ans. En 2020, c'est la présidence européenne, donc arrangé par l'Allemagne, donc qui va diriger l'Union européenne à partir du 1er juillet 2020. Et ce serait sans doute une sortie, entre guillemets, sympathique pour une Angela Merkel qui était quand même en première ligne de tous les débats européens depuis 2005.
On est en train de lui trouver une porte de sortie, Angela Merkel. Non, justement pour qu'elle puisse échapper à une sortie par une élection perdue. Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire en Europe, à votre avis ?
Si elle ne se représente pas, elle ne va pas perdre des élections.
Oui, non, partir sur une élection ratée, on va dire, un dernier mandat raté. Plutôt.
Mais en tout cas, un dernier mandat raté avec une élection anticipée, elle pourra dire en effet, c'est mon quatrième mandat n'a pas fonctionné. Elle souhaite rester jusqu'au bout. Donc, elle ferait égal à égal avec Helmut Kohl, qui est resté au pouvoir pendant 16 ans. Mmh. Je pense que là aussi, c'est quelque part son objectif qu'elle a en tête. Mais ça rend la vie très difficile à Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est en position d'attente, qui ne peut pas faire grand-chose, qui fait beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, de communication en particulier.
Par exemple ?
Et pour qui, par exemple, la CDU a été attaquée sur YouTube.
Ah, c'est vrai, bien sûr, YouTubeur, ouais.
Voilà, donc par une vidéo sur YouTube qui a été cliquée 14 millions de fois,
ouais,
donc
énorme.
C'est absolument énorme, et par un jeune youtubeur, comme on dit maintenant, bon français, qui
remettait en cause le bilan de la CDU.
Totalement, totalement, et notamment sur les questions économiques et climatiques. Or, la CDU n'a eu aucune réponse, sinon une tentative de réponse totalement chaotique, c'était un grand cafouillage, et donc ça montrait que face à la jeunesse allemande, face aux nouveaux médias, face aux réseaux sociaux, face au monde digital, Kramp-Karrenbauer, pour l'instant, ne semble pas être à la hauteur.
Ils ont probablement, peut-être en tout cas, en l'état perdu ces gens. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de réfléchir à la CDU à changer cette succession d'Angela Merkel ? Est-ce que c'est possible ou pas ?
Ah, c'est tout à fait possible. A priori, le président grand parti comme la CDU a la primeur pour être candidat à la chancellerie. Mais si de crise en crise, de mauvais scores aux élections régionales, aux mauvais scores, etc. Si les mauvaises nouvelles se multiplient pendant un Kramp-Karrenbauer, elle aura probablement un autre concurrent qui va émerger. Ça peut être le ministre-président actuel de la Rhénanie-de-Nord-Westphalie qui gouverne un land de 18 millions d'habitants, un certain monsieur Laschet, voire Friedrich Merz, le concurrent malheureux de Madame Kramp-Karrenbauer, qui a eu quand même des voix importantes, donc et qui pourra toujours dire « je suis là pour gouverner le pays ». Donc c'est pas encore gagné pour elle.
À quel moment il faudra prendre ce genre de décision pour éviter qu'on ait le sentiment que ce pays finalement n'est plus gouverné ? À quel moment il faudra prendre cette décision. Soit je reste et je suis effectivement potentiellement celle qui succédera à Merkel, ou non, j'y vais pas, rediscutons entre nous.
La CDU n'a absolument pas la main mise là-dessus. Ça dépend du SPD. Si le SPD reste au pouvoir jusqu'en 21, si la grande coalition tient, du coup, Kramp-Karrenbauer va perdre du temps, risque éventuellement de faire des erreurs, et là, peu à peu, peuvent émerger d'autres têtes. Si jamais le SPD décide à la suite des élections régionales de 2019 que vraiment trop c'est trop et qu'elle laisse tomber, dans ce cas-là, ce sera la fin de l'ère Merkel et Kramp-Karrenbauer pour être élu. Si jamais à la suite d'élections anticipées qui vont être nécessaires, la CDU restera le parti majoritaire en Allemagne, ce qui n'est pas du tout certain.
On parle beaucoup de ce que pourrait être effectivement, aller savoir, un chancelier vert ou en tout cas une augmentation encore du vote vert en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'AFD là-dedans ? Est-ce que là aussi, s'il y a ce remue-ménage et de nouvelles élections, on risque de voir une montée de cette extrême droite allemande ou pas ?
Eh ben non. L'extrême droite était à 12% aux élections de 2017.
RSC.
Il est monté dans les sondages jusqu'à 18% durant l'année 2018, notamment du temps d'une brouille sur les questions migratoires entre les deux branches de l'Union des démocrates. Mais maintenant, ils sont retombés et se tassent. Et on voit très bien aujourd'hui que le sujet principal en Allemagne, ce n'est plus la question migratoire, c'est devenu la question climatique.
Si, ce serait la dernière question, c'est toujours très étonnant les coalitions chez vous, comment pourrait fonctionner, est-ce que pourrait réellement fonctionner une coalition où il y aurait la CDU et les Verts de l'autre ? Comment ce genre d'attelage pourrait être réellement possible ? Alors on sent bien, en calcul, on a bien compris comment ça pourrait fonctionner, mais à l'usage, en fait, est-ce que ça paraît normal et très très possible aux yeux de la plupart des Allemands ?
Ah, tout à fait, d'abord parce que les Verts aujourd'hui n'ont plus de couleur politique, ce qui les distingue des Verts français. Ensuite,
ça
dépend.
On peut plus les désigner comme un peu centristes, en fait.
Ils sont
un peu
totalement
comme ça qu'on regardait les Verts.
Ils sont totalement centristes. Sur des questions sociétales, ils sont certes beaucoup plus à gauche que la CDU. Donc, ça veut dire que ça renforcerait forcément l'aile centriste de gauche, entre guillemets, des chrétiens démocrates, et poserait l'union de la CDU de Mme Merkel devant des dilemmes terribles, puisqu'à l'intérieur de ce parti existe aujourd'hui un courant qui s'appelle des Verte Union, l'union des valeurs. Et l'union des valeurs, ça me rappelle évidemment la LR, c'est-à-dire mm-hmm. c'est un parti qui vire vers la droite. Donc ça va être épouvantable pour les chrétiens démocrates de gouverner avec les Verts. Ce sera un vrai test de solidité pour ce parti-là.
Hans Stark, secrétaire général du comité d'études franco-allemandes à l'IFRI. Toujours passionnant de vous avoir avec nous dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Ensuite, ça se passe au Bénin, dans le premier hôpital psy qui associe l'art à la thérapie. C'est très rare sur ce continent, vous verrez comment ça se passe. Sous les radars est Amélie Perrier sur Tinder en Russie, avec des Milchek qui traversent l'Atlantique et Jay-Z qui devient le premier milliardaire du rap, figurez-vous. La chronique pour tous, c'est Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Le foot, ça vous met en joie moyennement en fait. Enfin, ça dépend où on va
ça
dire.
Ça dépend où on est, de quel côté du Rhin on se place.
Voilà.
Et on verra et ça. Rhin et RH.
On a bien compris.
Pas le Rhin, la grève de Rhin, quoi.
On a bien compris. Je vous remercie, Julia. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Soudan, Algérie, les élections sont des armes pour dictateurs alors.
Élections piège à con comme en mai 68. Oui, au Soudan comme en Algérie, en effet, les militaires au pouvoir cherchent à imposer des élections rapides. C'est un piège.
Et on verra ça ensemble. Il sera 18h55. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Texas. Kevin Morby est dans la playlist de France Inter.
When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four, three, two, one. And
s'appelle Kevin Morby dans la playlist de France Inter. Amélie Perrier est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un
jour dans le monde.
Intervention extra.
sous les radars, il y a la Russie. Pas facile, Amélie, les relations amoureuses dans ce pays.
Oui, surtout si vous utilisez là-bas Tinder, l'appli de rencontre qui géolocalise les prétendants. Le gendarme de l'internet russe, le Roskomnadzor, oblige désormais le site à partager les données de ses utilisateurs avec le FSB et tous les services de sécurité russes. Oui. Alors l'humoriste français Norman, hein, vous le connaissez, il arrive à nous faire sourire hein, des différents profils d'hommes sur Tinder.
L'Insta modèle, il poste que des photos de lui dans les endroits les plus cools du monde. Et s'il a un produit dans la main, ça veut dire qu'il est sponsor. Le mauvais acteur, lui il fait le mec décontracté alors qu'en fait il est pas trop à l'aise.
Salut la miss, alors moi je m'appelle 34 ans et je vais sur mes Frédéric. Et toi?
Le pot de colle, celui qui va insister pour te raccompagner même de jour et qui va tenter d'être galant en devenant étouffant.
Ah tu vas aux toilettes? Tu veux que je te tienne la porte? Ça me dérange pas, hein, je peux le faire pendant plusieurs heures. Peut-être que je devrais lui envoyer un 16e message.
Vous connaissez bien tout ça, hein, les profils sur
mais
Tinder.
Totalement,
mais en Russie, on ne plaisante pas du tout en fait avec Tinder. La menace est claire pour ceux qui ne se plient pas aux demandes des autorités. C'est une action en justice directe, comme par exemple pour Twitter ou Facebook, ou carrément le blocage. Hein, par exemple, pour la messagerie cryptée Telegram, l'appli n'a jamais cédé. Elle refuse de donner les clés pour lire les messages de ses utilisateurs. Blocage aussi du réseau social professionnel LinkedIn. Pour l'instant, Tinder affirme s'être enregistré, comme le demandent les autorités russes, mais n'a livré aucune donnée au gouvernement. Alors pas facile, effectivement, les relations amoureuses en Russie. Pour preuve aussi, cette pub, une affiche près du métro à Saint-Pétersbourg. Une clinique vétérinaire offre une castration pour les maris infidèles. En fait, cette pub, elle parle des castrations pour les chats, pour un mâle 1000 roubles, pour stériliser une chatte 2500. Et c'est gratuit, dit la pub, pour les maris infidèles. Mais la blague n'a pas du tout fait rire. Hein. Des passants ont porté plainte, ils y voient une discrimination sexiste, la ruine des valeurs familiales et puis un appel à la cruauté. Ouais, ça me plaît. Pas du tout en Russie. En
non,
fait.
Pas du tout. Ça plaît beaucoup à Julia Foyce, cette petite info.
Ça me rend dingue.
Allez, Amélie, on vous avait parlé des militants antifascistes, on s'en souvient, qui se servaient de 1000 chèques au Royaume-Uni et maintenant.
Et oui, des 1000 chèques lancés sur Tommy Robinson, hein, le chef d'un groupe d'extrême droite en campagne pour les européennes. Il a été la cible à plusieurs reprises de ses boissons lactées. Nigel Farage a aussi été victime d'un 1000 chèques, si bien que certaines entreprises avaient décidé au Royaume-Uni de suspendre la vente de boissons glacées quand des rassemblements politiques se tenaient à côté. Eh bien, la menace lactée a traversé l'Atlantique, semble-t-il. Alors voilà, c'est la vidéo d'un membre du Congrès américain républicain, Matt Gaetz, qui il a été milkshaké, comme on dit maintenant, à Pensacola, en Floride. Il sortait d'un restaurant quand l'incident s'est produit. La coupable a été condamnée à une amende de 1 000 $, oui, pour un milkshake lancé sur Matt Gaetz. Effectivement, ce politique, eh bien, c'est un fervent partisan du président Trump. Il lui a répondu, il faudra bien plus qu'une boisson pour arrêter notre formidable équipe.
Allez, on termine avec un gros big up alors.
Big up à la superstar Jay-Z, et quand il chante ça, ce n'est pas que de la frime. Et oui, I'm not a businessman, I'm a businessman. Je suis pas un homme d'affaires, je suis un business, mec. Laisse-moi m'occuper de mes affaires, dit-il dans ce hit. Et il s'en occupe très bien, Jay-Z. Le mari de Beyoncé vient de devenir le premier rappeur milliardaire, nous apprend Forbes, le magazine qui aime faire des palmarès des plus grandes fortunes de la planète. Jay-Z, Sean Carter de son vrai nom, vend des disques, fait des concerts, mais il a surtout investi son argent, par exemple une participation de 70 millions de dollars dans Uber, oui bien vu. Il possède une société de streaming, Tidal, sa collection d'art est estimée à 70 millions de dollars. Il possède aussi une société de management sportif, Rock Nation. Il a également des biens immobiliers. Et puis il est marié à Beyoncé, hein, on le rappelle, dont la fortune elle est estimée à 355 millions de dollars. Oui, c'est le tiers de monsieur, donc ça fait réagir aussi Julia.
Oui, non, forcément.
Pas tout de suite.
je peux pas m'énerver contre tout.
C'est vrai. Alors avant Jay-Z, Dr. Dre en 2014 s'était déjà vanté d'être le premier milliardaire du hip-hop après avoir vendu la société Beats Music, les casques audio et le service de streaming. Mais les experts affirment qu'après impôt, Dr. Dre était juste sous le milliard. Jay-Z, qui a grandi dans les quartiers pauvres de Brooklyn à New York, lui vient de passer eh bien, juste au-dessus, ce plafond de verre.
Voilà, donc déjà marié à Beyoncé, apparemment.
Non, mais il y a une place à prendre.
Oh, vous croyez? Il n'est pas jaloux, il paraît.
Il paraît.
Allez, Amélie, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mika,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Bénin que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir au Bénin où l'art est au service de la maladie mentale. Un centre d'art-thérapie accueille 10 pensionnaires toute la journée, 2 fois par semaine, musique, peinture, danse, photo. Ça existe évidemment chez nous, ces structures, mais en Afrique, c'est la première fois. Bonsoir Delphine Bousquet.
Bonsoir Fabienne.
C'est une initiative de Louis Oké Agbo, un photographe qui travaille depuis plusieurs années sur la santé mentale. Cet atelier permet de soigner et aussi de changer le regard porté sur les personnes atteintes de troubles psychiques.
Le vendredi, la journée commence en musique, sous un préau, au milieu de tables couvertes de pots de crayon, de feutres, de peinture. Les chaises sont rassemblées en cercle. Chaque pensionnaire tient un tam-tam ou un gong et suit les indications d'Albert Onga. Ce percussionniste anime l'atelier musicothérapie.
Le début, c'était pas facile, parce qu'il y a certains parmi eux qui ne peuvent pas parler. Le corps aussi, ils ont problème de corps. Mais maintenant, à force de le faire, tout ça là, ça a commencé par réactiver. Par la musique, ils ont commencé par comprendre que, ouais, petit à petit, et ça vient. Certaines personnes qui ont appris que je travaille ici, et ils me disent, mais toi, tu travailles avec des fous, donc toi, tu... Je rigole, je dis, je suis comme eux. Hein. Je dis, peut-être eux, ils voient clair plus que toi.
C'est pour changer le regard sur la maladie mentale que Louis Oké Agbo a créé ce centre en 2017 dans un quartier populaire de Porto Novo, la capitale. Le déclic est venu il y a une dizaine d'années. Louis commence à photographier des personnes atteintes de handicap ou de troubles mentaux, livrées à leur sort dans les rues. Certaines se promènent nues sans que personne ne fasse attention à elles.
Et chaque fois quand je passe dans les rues, je les vois, ça me touche. Au départ, je les aborde. Je crée d'abord un lien et je leur propose la photo. Il y a d'autres qui refusent, il y a d'autres qui acceptent. Et j'ai vu qu'ils ont l'envie. Déjà, un photographe qui s'approche d'eux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse dans leur vie.
Au Bénin, la santé mentale est mal connue et puis les structures manquent. Il y a un seul centre psychiatrique public pour tout le pays. Conséquence, les malades sont souvent rejetés, abandonnés par leurs proches et ce sont généralement des ONG ou des institutions religieuses qui les recueillent. Convaincu que l'art peut aider, Louis se forme en France et en Belgique. Au retour, il identifie des malades et retrouve les familles.
Il faut essayer de ramener le patient dans sa famille et après, c'est une convention avec la famille et de le ramener maintenant et faire le travail avec lui.
Est-ce que c'est difficile de convaincre les familles ?
Voilà, c'est très difficile parce que les familles au départ ne croyaient pas qu'à partir d'un dessin ou à partir de la photographie, on peut toucher l'intimité de quelqu'un. C'est toujours les médicaments qui les saoulent. C'est quand tu viens dans ce centre, j'enlève le nom de malade mental et tu deviens un artiste parce que tu peux créer pour vider l'intérieur. Ton intérêt qui est chargé et puis à partir de ça, on peut t'intégrer dans la société. À partir de ton travail, à partir de ton art, les gens peuvent commencer par t'accepter.
Une rupture, un traumatisme peuvent faire dérailler. C'est le cas de Gildas, 29 ans, qui a perdu son père jeune. Mais au Bénin, un trouble psychique ne peut apparaître que parce qu'on vous a jeté un sort ou parce que vous êtes possédé. Et il faut en tenir compte, selon Gilles Aizan, ce psychologue libéral suit les pensionnaires.
La représentation qu'on a de l'être humain au Bénin et chez nous, ça fait que l'individu n'est pas que chair, il est esprit. Et esprit, il est en relation avec des divinités liées à ses ancêtres, à un clan, à sa petite famille. Et que tout ce qu'il fait est codifié. Donc une fois qu'il agit et enfreint l'un ou l'autre de ses causes, survient la maladie mentale. Ce qui fait que le malade mental est beaucoup plus rejeté. Vous n'allez pas tenir un discours purement théorique, freudien, lacanien, à un patient pour dire « ben voilà, c'est fini ». Non, ça ne marchera pas.
Sur les murs ocre du centre, il y a de grands portraits. Parmi eux, celui de Gérard, hirsute, l'air hagard. C'était il y a 7 ans. Cet ancien cuisinier père de famille va beaucoup mieux. Il se confie penché sur une feuille de papier à dessin.
Maladie mentale, là, c'est fini comme ça, mais c'est comme un autre monde. Quoi. On est dans la vie, mais c'est un autre monde. Je me suis retrouvé déjà. Je me suis pris un malade. Les autres jours, là, quand je ne viens pas ici, je fais des manœuvrages de maçonnerie là, pour que mes enfants mangent, moi-même, je puisse manger. Nous sommes dans le même monde maintenant.
L'art-thérapie soigne. Révélera-t-elle des artistes ? Peut-être. Certaines productions intéressent Alain Détinger, ce galeriste lyonnais qui a longtemps vécu en Afrique et de passage au Bénin. Il connaît le centre, il apporte du matériel et suit avec attention le travail de Bénédicte, une des pensionnaires.
En fait, Vénédic, c'est une de mes premières révélations.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et j'avoue que j'ai été très surpris par cette façon de travailler, avec des corps de personnages très simplifiés, des visages dont on ne sait pas bien si ces visages sont faits de profil ou de face, parce qu'à la fois ils marchent à la fois de profil, à la fois de face. C'est ça qui est quand même étonnant au niveau de la construction.
Oui, voilà.
Quand je suis face au dessin de Benedict, je considère que c'est pratiquement de l'art brut. C'est plein de sensibilité. C'est pour moi, je suis très touché. J'ai envie que mes amateurs d'art découvrent ces artistes.
Une exposition, des ventes permettraient de collecter de l'argent. Actuellement, le centre fonctionne sur fonds propres, avec des bénévoles, et il pourrait ouvrir 3 jours par semaine au lieu de 2.
Formidable histoire, Delphine Bousquet au Bénin. Merci beaucoup. Oh, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi sur France Inter.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
C'est pas tous les jours qu'on entend Johnny Mitchell. On est bien content, ça se passe sur France Inter, évidemment.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Es.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Mesdames et messieurs, Julia Foy, c'est dans la place. Et chaque semaine, Julia, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes ou mauvaises. On commence par le tacle de la semaine.
Envoyé par Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleus ES, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot féminin. Pour ceux qui auraient raté l'info, ces joueuses ont dû quitter le château de Clairefontaine en fin de semaine dernière pour laisser leur chambre à l'équipe de Didier Deschamps qui préparait, elle, un match amical. Et donc, sur les réseaux, évidemment, ça s'enflamme et donc ça parle sexisme, discrimination, c'est dégueulasse tout ça, tout ça. C'est là que Corinne Diacre prend le micro, tape du poing sur la table, met les choses au clair, mais alors très clair, et je la cite pour résumer. Didier et moi, on s'était mis d'accord avant, mes joueuses ont été très bien relogées, les hommes sont prioritaires au château et c'est normal. Et paf, dans la face de tous ceux qui voudraient troubler la sérénité des joueuses, tout va bien sous le soleil de Clairefontaine. Quant à ceux qui éventuellement pourraient penser que le foot est aussi une question politique, que c'est peut-être un mondial, hein, l'occasion de rétablir certains équilibres, voire d'attaquer certains préjugés, eh ben, on a le clip de la sélection allemande.
Nous jouons pour un pays qui ne connaît même pas nos noms. Nous avons été 3 fois championnes d'Europe, d'accord ? Mais pour notre premier titre, nous avons été invités à goûter toutes sortes de thés. Alors nous avons lutté contre tous les préjugés. Les femmes sont juste bonnes à faire des enfants, à faire la lessive. C'est comme regarder jouer des amateurs au ralenti. Et vous savez quoi ?
Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte ?
What ?
Nice.
Oui, alors le jeu de mots de la fin est difficile à traduire. Hein, c'est ailleurs, c'est les œufs en allemand, mot à double sens, un peu comme balls en anglais. On va dire que ça dit à peu près, on n'en a pas, mais on sait s'en servir, vous voyez.
Oui, bon. On a bien compris.
Elle en a, elle aussi, un ballon d'or. Anna Hegerberg, joueuse d'origine norvégienne, attaquante vedette de l'Olympique lyonnais. En décembre, à 23 ans, elle était la première femme au monde à devenir ballon d'or. En juin, elle sera pourtant absente des terrains. Elle va bien. La Norvège est en compétition, mais non, elle ne participera pas à la Coupe du Monde, événement qu'elle boycottera, dit-elle, tant que les joueuses ne recevront pas le minimum du respect qui leur est dû. Et oui, ça, c'est bien ma femme de la semaine.
Allez, attention, breaking news, comme dirait l'autre, les GAFA, les géants du web, seraient, et on dit bien, seraient sexistes, Julia.
Oui, parce que, de vous à moi, ça sent un peu l'élucubration féminazie. Bon, Amazon est poursuivie par 8 femmes pour licenciement abusif. Elles étaient enceintes, elles demandaient à pouvoir aller aux toilettes un petit peu plus souvent que ce que prévoit le règlement. Alors ok, c'est pas hyper agréable de se retrouver au chômage pendant sa grossesse, mais je suis désolée, objectivement, une pause de 5 minutes toutes les demi-heures à la fin de la journée, ça te rend quand même un tout petit peu moins productive. Alors si tu veux pas te faire virer, tu serres les cuisses, tu contractes ton périnée et tu penses à l'entreprise. Entreprise qui d'ailleurs le répète au tribunal, Amazon met absolument tout en œuvre pour garantir une égalité de traitement entre tous ses salariés, quelle que soit leur capacité. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Alors laissons faire la justice et laissons faire l'algorithme de Google Images qui, par un hasard total, au-delà de toute paranoïa post-MeToo et de vous à moi, Fabienne. Mm-hmm. On vit une époque terrible, hein, cette chasse aux sorcières permanente, ça me fait très très peur pour les générations futures. Bref, le hasard, disais-je, et cette enquête du média Wired sur la banque d'images de Google, vous prenez 30 actrices et 30 acteurs. Vous tapez leur nom dans Google Images. Pour les acteurs, on vous sortira en moyenne 82 gros plans sur leur physique, le reste des photos proposées étant plutôt liées à leur filmographie, quand 182 clichés sont plutôt liés à une paire de fesses quand il s'agit des femmes. Alors certes, cet algorithme, comme l'ensemble des logiciels sur lesquels reposent ces GAFA, sont tenus, conçus, pensés majoritairement par des hommes, mais je peux pas croire que ça influence leur vision du monde. Non. C'est comme Facebook, hein, taxé de sexisme lui aussi à cause de son fil d'actualité. C'est une enquête menée par un institut de recherche américain au printemps dernier, portant sur 22 000 publications tirées, elles, d'une trentaine d'organes de presse nationaux. On se concentre sur les images d'illustration de ces articles. Dans 53% des cas, seuls des hommes y figurent, quand 22% seulement de ces photos ne montrent que des visages de femmes. L'écart se creuse encore quand on part sur des sujets dits sérieux. Si on prend l'économie, par exemple, sur 69% des clichés, uniquement des hommes. Et elles sont où les femmes? Je ne sais pas, aux toilettes peut-être, hein.
Julia Foyce, merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Jean-Marc, quand on pense élection, en général on pense démocratie, mais ce n'est pas vrai partout. Deux exemples très récents démontrent le contraire, l'Algérie et plus encore peut-être le Soudan où la répression vient de s'abattre hier. Les élections peuvent aussi être la meilleure arme des militaires et c'est votre monde à l'envers.
Et d'abord, quelle coïncidence de date tout de même, 30 ans jour pour jour après les événements de Tiananmen à Pékin, le pouvoir soudanais a donc fait la même chose hier à Khartoum, faire évacuer par la force, manu militari, la place symbolique où s'exerçait la contestation démocratique depuis deux mois, la répression dans toute sa violence. C'est un scénario que l'on connaît bien, irruption de soldats dans les rues, tirs d'armes automatiques, des dizaines de morts, des centaines de blessés, des journalistes bloqués dans leurs hôtels et une annonce officielle de reprise en main à la télévision. Le dialogue avec l'opposition civile est envoyé aux oubliettes. Retour à la case départ, un dictateur Omar el-Béchir a été évincé, mais deux autres ont pris sa place, le général al-Bourhan et le chef des miliciens, les forces de soutien rapide, Hamdan Dagolo dit Emetti. La situation n'est pas si différente en Algérie. Il n'y a pas eu de répression violente, c'est vrai, de l'ébullition démocratique, mais là encore, un dirigeant ancien, Bouteflika, a été évincé. C'est un militaire, le général Gaïd Salah, qui l'a de facto remplacé et il n'a engagé aucun dialogue réel avec la rue. Dans un cas comme dans l'autre, les militaires ne rendront pas le pouvoir facilement. Au Soudan, ils veulent conserver leur mainmise sur les mines, l'or en particulier. En Algérie, c'est à peu près la même chose, mais avec le pétrole. En fait, ça ne devrait être une surprise pour personne. Dans l'histoire, les exemples sont très rares d'une transmission pacifique du pouvoir par l'armée aux civils.
Mais alors, en quoi utilisent-ils les élections à leur profit ?
Réponse à votre question avec une autre question. Qui veut des élections rapides au Soudan comme en Algérie ? Dans les deux cas, je vous le donne en mille, est l'armée. En Algérie, le pouvoir a bien fini par renoncer avant-hier à organiser la présidentielle le 4 juillet prochain dans un mois. Mais le général Salah a tout fait pour la maintenir. au Soudan. Dès la reprise en main effectuée hier, le général Al-Bourhan a annoncé des élections au plus tard dans 9 mois. En fait, il faut comprendre au plus vite. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, un délai court empêche le processus démocratique. Pas le temps de voter une vraie loi électorale, pas le temps de nommer une vraie commission de supervision du scrutin, pas le temps de laisser des partis politiques indépendants émerger ou se structurer et de nouveaux leaders apparaître. C'est la garantie, en fait, pour un pouvoir en place d'obtenir le résultat qu'il souhaite avec les élus qu'il a choisis. Grosso modo, les héritiers du FLN en Algérie, grosso modo, les islamistes au Soudan. C'est précisément pour ça que, à l'inverse, dans les deux pays, les oppositions civiles, elles réclament du temps. Une période de transition la plus longue possible, des élections le plus tard possible, avec une autorité politique de transition composée pour l'essentiel de civils. En fait, c'est la différence, on la connaît, entre la démocratie formelle et la démocratie réelle. C'est-à-dire que voter, c'est un critère nécessaire à la démocratie, mais ce n'est pas suffisant. Et de nombreux dirigeants africains l'ont bien compris. Ils s'auto-légitiment régulièrement avec des scrutins faussés, ni libres, ni transparents. On le disait tout à l'heure, élection au piège à con.
Et donc, Jean-Marc, au Soudan et en Algérie, la suite, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ça sent quand même pas très bon. Hein. Au Soudan en particulier, où les militaires au pouvoir, avant de lancer la répression, sont allés s'assurer ces derniers jours du soutien de leurs parrains régionaux, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, autant de gouvernements qui détestent, on le sait, l'aspiration démocratique. Ils ont débloqué 3 milliards de dollars pour aider le régime soudanais, qui doit donc se sentir pousser des ailes. Alors la rue ne va pas céder pour autant, parce qu'au Soudan comme en Algérie, le mouvement est massif, populaire, et même pendant cette période toujours délicate du Ramadan qui s'achève ce soir, les populations soudanaises et algériennes ont fait preuve d'une intelligence collective exceptionnelle. Cela dit, face à la répression armée, ça s'annonce compliqué. Est-ce que nous, occidentaux, on peut faire quelque chose ? D'abord condamner, c'est bien le minimum, et sur ce sujet, on s'en parie un peu timoré, moins engagé en tout cas que Londres et Berlin. Nos voisins ont convoqué d'urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis sanctionner les dirigeants, aider les oppositions civiles, directement, indirectement, ne serait-ce qu'en favorisant la médiatisation de leur combat par la presse, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, le risque est grand aujourd'hui de voir ces soulèvements étouffés comme ils l'ont été sous des formes diverses en Égypte ou en Syrie depuis 2011.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, la suite c'est le journal et puis le téléphone.